Ce podcast a été enregistré à Podcast pour les 10 ans de Podrenne, le festival de podcast. Plus d'informations sur madgeek.fr.
Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue. On va commencer par une première partie de une petite présentation avant d'attaquer l'épisode à proprement parler. On va tenter une petite partie un petit peu participative. Donc, commencez à sentez-vous prêt à participer et à venir peut-être au micro si vous le souhaitez. Alors, en quelques mots, je vais commencer par le sujet que je maîtrise le mieux et le sujet dont j'aime le plus parler. Je vais vous parler de moi. Je vais essayer de faire ça assez rapidement, mais je pense que c'est important pour présenter le projet. Moi, j'ai été libraire pendant une dizaine d'années. J'ai organisé un certain nombre d'événements en librairie que j'ai assez souvent animés et ça m'a toujours laissé un petit peu de frustration de dire il y a beaucoup de travail qui est fait par les libraires, les éditeurs, toutes les professions du livre, tous ensemble pour réfléchir à des événements, faire des choses convivial, etc. Et puis tout ça, une fois que l'événement est terminé, c'est fini et ça disparaît. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de lancer ce podcast qui s'appelle donc Constellation de Papier, en disant j'ai envie de regrouper quelque part dans ce podcast des conversations avec des gens dont le travail me plaît, qui font des choses intéressantes, qui ont une réflexion nourrie par les livres. Et j'aimerais archiver ça quelque part. Donc c'est l'idée du podcast. Et pour vous montrer l'étendue de mon talent, au début, dans mon tout premier hors-série, pour mettre ça en scène, j'avais mis ça comme musique au début, et j'espère que ça a fonctionné. Voilà. Et j'ai voulu jouer sur le contraste en disant, voilà, là on a quelque chose de très apaisé, un petit peu lénifiant, ce qui pourrait renvoyer à l'image qu'on a un petit peu des livres. Et donc, comme j'avais suivi une formation un peu cool, j'ai même rajouté des effets du genre ça. Et après, j'ai mis la musique. La vraie musique, qui est mon vrai générique, qui est plus cool, plus punchy, en disant regardez comme mes musiques sont chouettes. Tout ça pour vous dire que quand le vrai épisode va commencer, il y aura cette musique, et je vous remercierai d'applaudir pour montrer à quel point je suis cool et chouette et dynamique. Voilà, donc, cela dit, je voulais... Avant qu'on commence, pour vous présenter un petit peu l'esprit, donc le podcast, je l'ai dit, s'appelle Constellation, et c'est vraiment l'idée de voir dans le paysage mental de mes invités quels livres ont compté et comment ils se relient les uns aux autres. Donc je vais vous proposer un petit peu l'exercice pour celles et ceux qui le souhaitent. Moi là, je me suis amusé juste avant de commencer, j'ai regardé la bibliothèque derrière moi, je suis très content qu'on ait mis une bibliothèque derrière. Et par exemple, j'ai pris comme ça trois livres qui, pour le coup, vraiment sont des livres qui ont compté dans mon parcours, donc je fais un petit peu l'exercice rapidement. Il y a ce livre aux éditions La Fabrique qui s'appelle L'argent et les mots, qui fait partie d'une trilogie par un très grand éditeur qui s'appelle André Chiffrin. Une très grande trilogie qui est une réflexion sur les milieux du livre, la disparition petit à petit des librairies et des maisons d'édition, de critiques sociales. L'argent et les mots, c'est le dernier tome et ça, c'est un livre que j'ai lu moi dans ma formation qui a beaucoup compté et je suis content de le retrouver là parce que je pense que si j'avais dû faire une liste, il aurait été dedans. Après, un livre... qui s'appelle « Voyage dans l'Anthropocène », qui est le premier livre que j'ai lu qui parlait du concept d'Anthropocène, de Claude Lorius, qui a popularisé le concept, et Laurent Carpentier, qui est aussi pareil dans mon éveil environnemental, écologique, a beaucoup compté, donc pareil, j'étais content de le trouver là. Et puis un livre qui fera le lien avec ce dont on va parler avec notre invité, c'est un livre de Serge Halimi, du Monde diplomatique, qui s'appelle « Quand la gauche essayait », et qui est un livre sur les grands moments où la gauche, au pouvoir, a vraiment essayé de faire quelque chose, ce qui peut être le Front populaire, le début du mandat Mitterrand, etc. Voilà, donc j'ai fait ce petit jeu, et j'aimerais bien, pour apprendre à vous connaître, que certains d'entre vous prennent 2 secondes, soit viennent au micro jaune, soit comme ça dans la salle, vous me disiez, là comme ça, sans trop réfléchir, le premier livre que vous avez lu, votre livre préféré, et celui que vous êtes en train de lire en ce moment. Et je vais prendre 4-5 personnes, si j'ai des volontaires et des courageux, comme ça on va apprendre à se connaître. Et j'ai déjà un volontaire, si tu veux ouais, venir au micro jaune, merci beaucoup.
Bonjour.
Bonjour.
Donc oui, donc pour ta question sur les trois livres principaux, dans l'ordre, donc le premier que j'ai lu, alors comme beaucoup de trentenaires, ça a été Harry Potter, premier du nom. Le livre préféré, en fait, c'est le deuxième livre que j'ai jamais lu de ma vie, et je ne plaisante pas, La quête des Whelan, de Pierre Bottero.
Ok.
Alors pour info,
Ouais, voilà. Ah, il y a des fans dans la salle.
Le public est déchaîné. Voilà.
Attendez, j'ai pas encore mis la musique.
Sachant qu'au passage, il y a Andarta Pictures qui devrait faire une adaptation en dessin animé. C'est visiblement dans les cartons.
Okay.
Donc voilà, je suis content comme c'est pas permis depuis environ 2 ans qu'ils ont annoncé le projet.
Et Willan, c'est avec des dragons, on est d'accord, hein, c'est ça, c'est un univers avec des dragons.
Il y a un dragon à un moment. Il y a un dragon, ouais. Okay. Voilà, du fantastique et tout. Et là, présentement, c'est un essai chez Third Edition par Thibaut Claudel dans les méandres de Warhammer 40 000 où il fait toute la genèse de Games Workshop et il parle un peu de toutes les éditions de ça. C'est la première fois que je lis un bouquin qui n'est pas de la fiction, ça me fait tout drôle. Voilà.
Ok, merci beaucoup.
Je laisse la place.
Allez, au suivant, je vais en prendre, disons, 2 ou 3. Allez, merci.
Bonjour, collègues.
Bonjour.
Je fais aussi un podcast sur... Mais je ne vais pas faire de pub. Sur, on discutera après, hein. Promis.
Oui, mais je crois qu'on s'est déjà dit qu'on discuterait ensemble.
Voilà. Alors, moi, ce n'est pas spécifiquement... Parce que je suis très vieux, donc j'ai la mémoire qui commence à flancher. Donc, je ne me souviens pas spécifiquement du premier livre que j'ai lu, mais d'une maison d'édition, d'une collection qui était Fleuve Noir Anticipation. Donc, j'ai commencé direct, très jeune, sur du Fleuve Noir Anticipation et toutes les folies qu'on pouvait lire à l'époque. Fait principalement par des auteurs français. Le reste de la question, c'était...
Le préféré est celui que tu lis en ce moment.
Alors, le préféré, bon, il n'y a rien à... Bon, ça reste quand même Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Parce qu'il y a tout dedans, donc c'est vrai que c'est difficile de la compétition. Il faut vraiment regarder à côté. Et le dernier que j'ai lu, c'est un éclat de givre d'Estelle Faye, une autrice de science-fiction et de fantasy, d'imaginaire, et qui est vraiment très sympa et très, très attachant. Voilà.
Ok. C'est vrai qu'on, là, moi, petit, merci. Petit à petit, j'ai eu une dizaine d'invités, et c'est vrai que Harry Potter, alors c'est aussi des effets générationnels en tout cas, mais Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Ça a vraiment marqué des générations, évidemment, pour Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, la nôtre. Notre génération au sens très large. C'est impressionnant. Merci beaucoup. Et on discute après, promis, entre nous. C'est bon. Allez, est-ce qu'on a un dernier ou une dernière volonté ? Ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Tu fais un selfie en même temps que ça ?
Non, même pas. Même pas. Alors, premier livre, ça remonte à très longtemps. C'était une BD. C'était Le Trésor de Rackham le Rouge.
Ah oui.
Mais j'étais tout petit.
Ah, mais moi aussi, pareil. Je les ai lus dans le désordre. J'ai eu d'abord. Parce que Rackham le Rouge, il y a le second. Ouais, mais moi, je l'ai lu et, parce que Le Secret de la Licorne, il est avant. Il est avant. Moi, je les ai lus dans le mauvais sens. Ouais, du coup, j'ai jamais rien aussi. Compris. Tu m'expliqueras après.
Oui, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est RG, c'est pas non plus trop difficile à comprendre. Mon livre préféré, c'est L'Octologie de la Tour Sombre de Stephen King. Voilà, que j'ai lu plusieurs fois, que j'ai écouté en livre audio, et je trouve que c'est un chef-d'œuvre qu'il a fait. Et le livre que je lis actuellement, c'est Utopia de Camille Le Boulanger, qui est une utopie assez géniale et que je conseille vraiment à lire pour se remettre un petit peu en question, mais positivement.
Ok, voilà. Très bien, merci. Une dernière ? Non ? Ok, allez, alors on continue quand même avec le participatif pour quelques minutes. En tout cas, de ce que vous avez cité comme lecture, on va être vraiment super raccord avec le thème. Vraiment, on a vraiment tout pour s'entendre. Du coup, quand ma proposition a été retenue pour venir à Castres, pour podcast, et je remercie encore les organisateurs, organisatrices de m'avoir accepté, je me suis dit, j'aimerais bien faire un épisode un petit peu spécial, et j'ai fait un petit tour dans ma tête en me disant, Castres, qu'est-ce que ça m'évoque ? Et voilà. Alors, je me suis rappelé que quand j'étais gamin, j'avais un ballon du Castres Olympique. Je sais pas comment, je suis bordelais, j'avais un ballon du Castres Olympique. Et puis, dans ces derniers jours, depuis une quinzaine de jours, le goût du rugby m'est un peu passé. Donc, j'ai laissé de côté la piste rugby, j'avais plus trop envie de faire des blagues à propos de ça, etc. Et puis, c'était à peu près tout. Alors, je me suis dit qu'on allait continuer dans le participatif, on va faire une constellation mutuelle. J'aimerais que vous me disiez un peu comme ça ce que Castres vous évoque et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça. Je vois déjà des têtes, j'ai fait la même. Hein. Mais vraiment, n'hésitez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous pouvez même me parler de l'A69, si vous voulez, si c'est ça que Castres vous évoque. N'hésitez pas. Et voilà, si vous voulez me dire là, comme ça, un peu à la volée, à quoi Castres vous fait penser ? Et ouais. Non, rien. Donc pas d'épisode du coup. On est coincé. Moi, il me faut mettez-moi quelque chose, je veux dire. Ouais, c'est ça pour faire le. Bon, vraiment pas d'idée. Quelqu'un, monsieur ? Ah.
Alors d'abord, est-ce que je peux, Jérémy, me permettre de répondre aux questions précédentes d'avant?
Bien sûr.
Hein, c'est toujours intéressant. Bien sûr, bien sûr. Toujours intéressant là, hein. Bon, mon premier livre que j'ai lu, c'est alors. Bon, tout à l'heure, j'hésitais là. Et je crois que c'est le journal de Mickey, en premier. Je crois qu'avant, il y avait, dans ma jeunesse, un bouquin qui s'appelait Roudoudou, je crois, où il y avait très peu d'écrits. Bon, ensuite, bien entendu, j'ai été un fan de Mickey. Alors, par contre, avantage, Jérémy, c'est que j'ai lu le premier Mickey, Tintin au Congo. C'est le premier Mickey, Tintin au Congo. Ah bon ? Ensuite, il y a eu Tintin en Amérique. Mm-hmm. Bon, je connais très bien mes classiques. Mon livre préféré, moi, c'était en classe de première. En classe de première, au lycée de Carmaux, on avait une superbe prof de français. Bon, j'avoue que j'en étais un peu amoureux, en plus. Bon, bon mais ça, c'est logique, ça. Donc, alors, elle nous a fait connaître Albert Camus. Et depuis, bon, c'était L'étranger, le premier bouquin que j'ai lu. Et je crois que dans ma vie, je commence à vieillir un peu, là. J'ai dû le lire pendant X fois, à peu près. Donc, il y a encore 2 ans, je me suis refait toute l'intégrale de Camus. Et ça m'a fait du bien parce que, avant ça, les années précédentes, j'avais fait toute l'intégrale de Proust. Alors, Proust, au bout d'un moment, quand on se tape tous les bouquins de Proust, c'est pas forcément évident. Et ça m'a fait du bien de lire Camus. Voilà ce petit aparté que je voulais faire.
Eh bien, ben merci. Alors, je suis un peu surpris par Mickey. J'aurais plutôt pensé Pif Gadget, mais...
C'était après.
Je mélange. Pardon.
Après, Pif Gadget.
Mais cela dit, votre proposition, donc Castres, qu'est-ce que ça vous évoque? Que je puisse lancer le générique, les applaudissements.
Il y a à Castres une place célèbre avec une statue célèbre à Castres. Voilà. On y va à côté, souvent, au café. La statue de Jaurès à Castres. Voilà. Bon. Alors, Jean Breil.
Et c'est le moment du générique.
Voilà. Jean Breil sur
non,
ça.
Non, bon. C'est vraiment le moment du générique.
Hein?
C'est moi qui reprends le contrôle.
Oui, mais tu sais, il m'arrive parfois. D'avoir
je me suis mis du mauvais côté au niveau des oreilles, c'est ça. Ah voilà. Merci. Merci. Voyons. Et donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Bienvenue dans cet épisode hors série, un enregistrement en direct à l'occasion de podcast et un épisode spécial avec un format un petit peu différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Parcourir ensemble, comme d'habitude, la bibliothèque, mais non pas d'un invité, mais d'une personnalité célèbre. Avec le même but, évidemment, c'est-à-dire découvrir quelles lectures ont marqué son parcours, quelles idées ont été fécondées par ses lectures, quels enthousiasmes les lectures ont procuré, par quoi et par quel livre il ou elle s'est évadé. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et dans Constellation de Jaurès, je reçois aujourd'hui Max Assier. Bonjour Max.
Bonjour Jérémy.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation donc pour nous parler de Jean Jaurès dans cet exercice effectivement un petit peu nouveau. Donc on va suivre le fil que vous avez déterré puisque c'est quasiment un travail inédit en fait que je vous ai demandé. Avant d'attaquer effectivement les lectures de Jean Jaurès, je voudrais en quelques mots, parce que j'ai l'impression que vous êtes assez bavard, je voudrais en quelques mots que vous vous présentiez pour le public et puis que vous nous présentiez pour la partie historique dans les grandes lignes le parcours de Jean Jaurès avant qu'on attaque ses lectures.
Bon, depuis que je suis retraité, même je l'étais avant, je suis un historien. Alors, souvent quand on pense aux historiens, on voit des personnes, bon... un certain âge, bon, une grande barbe. Moi, j'ai la barbe, mais je l'ai courte. Et c'est souvent des personnes qui sont ennuyeuses. Donc, hein. Je suis historien depuis. Je fais des bouquins depuis 2013. Historien, conférencier. Je fais des bouquins surtout centrés sur le tard. Et je suis maintenant reconnu pour être le spécialiste tarné de Jean Jaurès maintenant. Le spécialiste tarné. Avant moi, c'était Encastré. C'était Jean Foury qui est décédé cette année. On me reconnaît maintenant le fait d'être en Occitanie et surtout dans le Tarn, le spécialiste de Jaurès. Pourquoi? Parce que j'ai fait 2 bouquins sur mon Jaurès. Celui-ci, alors vous voyez, bon, c'est Donc j'ai voulu que, la couverture soit pas trop ringarde. C'est un petit dessin qui représente Jaurès son mine de Carmaux. Donc, hein, plutôt que d'avoir les couvertures avec un vieux monsieur, une barbe, etc. Bon, je suis également conférencier. Bon, je fais des bouquins sur le tard. Guide du patrimoine du tard, des bios de Jaurès, etc. Je ne vais pas vous raconter ma vie sur ça. Conférencier. Et sur Jaurès, je dois avoir maintenant, j'aurai 18 conférences différentes sur Jaurès, puisque depuis que j'ai connu Jérémy, j'ai eu l'idée, dans mon tout à l'heure en voiture, je me suis dit, et si je faisais une 18e conférence, thème différent, Jaurès lecteur. Voilà, c'est grâce à Jérémy que je me suis penché sur ça, et ça va être un peu innovant. Bon, après, bon, ma vie, bon, en dehors de ça, auteur, conférencier, bon, je gère deux sociétés savantes. Oula, alors là, quand on parle société savante, c'est... Ça fait un peu peur, hein, C'est des vieilles sociétés qui ont été créées dans le Tarn en 1878. Je suis vice-président de l'une, Société des sciences à rebelles lettres du Tarn. Et je suis responsable culture de la Fédération des associations culturelles et intellectuelles du Tarn. Mais je vous rassure, je ne suis pas le plus vieux, je ne suis pas le plus jeune non plus dans les dirigeants. Voilà, donc... pour me présenter rapidement.
Très bien, et merci beaucoup. Et j'en profite aussi pour remercier le musée Jean Jaurès, qui est effectivement à Castres également, et c'est eux qui nous ont mis en contact. Et du coup, donc, avant qu'on attaque ces lectures, est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la mémoire sur Jaurès? Parce que j'imagine qu'on pourrait faire là aussi un petit tour de salle, et on aurait les uns et les autres quelques vagues souvenirs, mais très très vagues. Donc un petit portrait rapide.
Vous savez, alors, je prends mes notes à côté, là, et... Souvent, quand je donne des conférences ou des interventions, j'ai tout par cœur dans ma tête. Là, c'est un peu nouveau, puis j'ai besoin de... C'est l'âge qui veut ça, d'avoir les notes à côté. Bon, Jaurès, il est né à Castres, d'abord. Il est né à Castres, dans la rue Réclusanne, à Castres, qui s'appelle aujourd'hui Saint-Richard, au centre de Castres. Il est né le 3 septembre 1859. Ensuite, il a fait sa scolarité à Castres, scolarité primaire, de 1865 à 1869, une pension privée, la pension Séjal. À la tête, il y avait un prêtre, un abbé, mais qui était quand même assez sympa, qui était bon, assez ouvert, c'était l'abbé Rémy Séjal. Et il a présenté la particularité, c'est qu'il s'est intéressé à l'élève Jaurès, il lui a appris des rudiments de latin. On y viendra après sur ça. Ensuite, il a été élève au collège de Castres de 1869 à 1876. Très bon élève, il trustait tous les prix, sauf il avait un problème avec le dessin. Voilà. Sinon, après, il avait tous les premiers prix. Ensuite, de 1876 à 1878, il est parti à Paris. Pourquoi il est parti à Paris? Parce qu'il avait envie de devenir enseignant. Il avait envie de devenir enseignant, en particulier en philosophie. Donc, il a été pensionnaire au collège Sainte-Barbe à Paris. Il avait obtenu une pension. Pensionnaire au collège Sainte-Barbe pour suivre des cours au lycée Louis-le-Grand, qui était un des très grands lycées parisiens, qui est encore toujours prestigieux, qui préparait au concours d'entrée à l'école normale supérieure. Ensuite, de 1871 à 1881, il a été élève à l'École normale supérieure à Paris. Il avait été admis premier de promotion à l'École normale supérieure. Ensuite, il passe l'agrégation. Il est troisième de sa promotion en agrégation en 1881, agrégation de philosophie. Il était troisième parce que... En particulier, le premier, c'était le célèbre philosophe Henri Bergson. Voilà, donc j'arrête là sur ça. Ensuite, avec ça, il est redescendu dans le Tarn. Il a été prof au lycée d'Albi, qui est aujourd'hui le lycée La Pérouse, de 1881 à 1883. Ensuite, il a commencé à s'intéresser un peu à la politique. Mais comme il ne voulait pas rester simplement un simple et modeste, je dirais modeste, entre guillemets, prof dans un lycée, en 1883, il a été maître de conférence à l'Université de Lettres de Toulouse. 1883, maître de conf, donc, à Toulouse. Ensuite, il continuait de s'intéresser à la politique. Et puis, en 85, il a franchi le pas. Il est devenu député du Tarn. C'était pas des élections par circonscription, c'était une liste au scrutin de mon liste, il a été élu sur la liste républicaine. Il n'était pas encore socialiste, Jaurès. Il avait 26 ans et c'était le plus jeune député du Tarn à 26 ans. Ensuite, en 1889, manque de chance, il est battu aux élections. Pourquoi ? Parce que le scrutin n'était plus un scrutin de liste, mais était un scrutin par circonscription. Et la circonscription de Castres était très ancrée à droite. Il a forcément été battu. Donc. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est reparti à Toulouse, maître de conférence à Toulouse, de 1889 à 1893. Il a passé son doctorat à Toulouse. Il a continué, ça c'est un endroit qu'on ne sait pas très bien, il a continué de s'intéresser à la politique à Toulouse, puisque c'était en 1890, il a été élu au conseil municipal de Toulouse sur la liste républicaine et socialiste. Il est devenu maire adjoint en charge de l'instruction publique à Toulouse. Ensuite, élément déclencheur, Carmaux, les grèves des mineurs. Il a été élu député de la deuxième circonscription d'Albi, qui comprend Carmaux et qui comprend ensuite tout le nord du département, qu'on appelle le Ségala. Ensuite, ça, on arrive de 1893 à 1898. Coup de tonnerre, en 1898, il est battu aux élections, en 1898. Pourquoi il est battu ? Parce que en 1895, il y a la grève des verriers et il a été à l'origine de la création de la verrerie ouvrière à Albi. Ça lui a valu d'être battu. Bon, à partir de là, il fallait qu'il mange, il n'avait plus de salaire. Donc, il n'a pas eu envie de revenir prof. Et il a continué de faire du journalisme, puisque en 1887, il a commencé à écrire des articles dans la Dépêche du Midi, en 1887. Et il est devenu journaliste, il est devenu journaliste professionnel à un quotidien qui s'appelait La Petite République. Il était directeur politique du quotidien. Mais en 1998, il est revenu à la charge. Il est élu député de Carmaux de 1902 jusqu'en 1914. Vous voyez sa vie, donc, avec des points très bons, précis par rapport à ça. C'est qu'en 1904, par exemple, il a été le fondateur et le premier président et directeur de l'Humanité, un quotidien. Ensuite, il y a tout un. En 1905, il a fait l'unité de toutes les forces socialistes. Et puis ensuite, c'est sa période pacifiste avec les différents discours contre la guerre. Voilà, j'ai essayé, Jérémy, de résumer sans en étant à la portée de tout le monde. Donc.
Je pense que c'était parfait et on a, et c'est là qu'on voit l'organisation extrêmement précise, on a déjà les trois grandes parties qui se détachent. On pourrait revenir donc sur d'abord sa formation initiale, on va dire, et son goût pour les auteurs classiques et son côté extrêmement boulimique de lecture. Je reprends le terme que tu m'as indiqué l'autre jour. Ensuite, on parlera de comment il est devenu, parce qu'il n'est pas né, il est devenu socialiste et son éveil politique et sa partie de critique littéraire et de lecteur des auteurs de son temps. Et puis ensuite, on finira avec une troisième partie sur, tel qu'on l'appelait, l'apôtre de la paix et de ce qu'il a mené, comment il a mené ces combats-là et sur quels livres, auprès de quels auteurs il s'est appuyé. Donc un jeune boulimique de lecture à qui les surveillants arrachaient les livres pour qu'il arrête de lire.
Un boulimique de lecture, oui. En particulier, lorsqu'il était au collège de Castres, quand il était à la cantine, les surveillants lui prenaient les livres des mains. Pourquoi ? Tout simplement, en train de manger, il était en train de lire. Alors, qu'est-ce que lisait Jaurès à ce moment-là ? Vous allez voir que c'est intéressant. Je vous ai dit que quand il était à l'école primaire, ce brave abbé Séjal de Castres lui avait appris des rudiments de latin. Ensuite, au collège, il a appris le latin, il a appris le grec. Alors, je peux vous dire, qu'est-ce qu'il lisait à ce moment-là ? Mais à ce moment-là, il lisait les auteurs antiques. Il lisait. Voilà. Et exactement, c'est exactement ça. Il adorait en particulier les poètes antiques. Il adorait parmi les poètes grecs, Homère, bien entendu, l'Iliade et l'Odyssée. Parmi les poètes romains, alors là, c'était un peu plus difficile à lire quand même. Hein. Il aimait bien Virgile, en particulier, parmi les poètes. Mais il ne lisait pas que ça sur les auteurs antiques. Il lisait des philosophes. Là, ça a été son premier réveil à la philosophie. Grâce, toujours pareil, à son prof de philo qu'il avait au collège de Castres. Alors, les philosophes qu'il a lus, c'est pas triste quand même. Je vais essayer de vous les citer. Il adorait Platon. Si vous lisez Platon, La République, Le Gros Pavé, bon, je ne l'ai pas lu, moi. Pas lu en entier, du moins. Je n'ai lu que des passages. Et ce qu'il faut savoir, je vais vous dire même mieux, sur Homère et Platon, qui étaient ses deux préférés, poète et philosophe, il était capable de réciter par cœur des extraits d'Homère, de l'Iliade et l'Odyssée, et des extraits de La République de Platon, en particulier. Il faut quand même le faire, ça. Quand même le faire. Et ensuite, concernant les philosophes romains, certains, il était capable de les réciter par cœur, y compris en latin, certains passages. Alors, je vais vous dire les philosophes qu'il aimait, que ce soit grec et romain, sur les Grecs, Platon, bien sûr, Socrate, Aristote, Épicure, Héraclite, Pythagore, Thalès, Diogène, Démocrite, Théophraste, etc. Pas mal déjà, hein ? Ensuite, sur les philosophes romains, il adorait Cicéron, Marc Aurèle et Plotin. Vous voyez les lectures qu'il avait quand il avait entre 15 ans et 20 ans.
Et vous, vous lisiez quoi quand vous aviez 20 ans ? Allez, on y va. Le journal de Mickey.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu retrouver, en fouillant dans les bouquins, ce qu'écrivaient certains amis de Jaurès sur ses lectures. En particulier, il avait un très grand ami, un philosophe, sociologue, qui était très lié avec lui, qu'il a même vu le matin de sa mort à Paris, donc. C'était Lucien Lévy-Brulle. Il disait, pendant ses années au collège de Castres, Jaurès lisait les chefs-d'œuvre de l'Antiquité, mais je vous rassure, de la littérature française aussi. Et il a lu tous les auteurs romantiques, il a lu en particulier. Et ensuite, il fallait, comme je l'ai dit, l'obliger à fermer ses livres pendant les repas. Ça, c'était son frère Louis Jaurès qui l'a dit. Ensuite, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'un autre de ses amis, Vincent Auriol, qui a été président de la République sous la 4e République, dans un bouquin de Vincent Auriol, il parle d'un certain monsieur Deltour qui avait aidé Jaurès dans sa carrière professionnelle et qui lui avait permis d'avoir, il est inspecteur général, qui lui avait permis d'avoir des bourses à Paris. Alors, Auriol, il dit, si M. Deltour ne fut pas l'inventeur de Jaurès, comme certains le croient, il n'en fut pas moins son bienfaiteur puisqu'il obtient de lui une bourse pour Sainte-Barbe et qu'il lui permit d'entrer à l'école normale supérieure. Ensuite, il explique, M. Deltour aimait beaucoup Jaurès et le considérait un peu comme son fils adoptif. Quand il était pensionnaire à l'école Sainte-Barbe, élève ensuite à l'école normale supérieure, M. Deltour venait le faire sortir le dimanche, le prenait chez lui à déjeuner, et qu'est-ce qu'ils faisaient tous les deux ? Ils commentaient des vers d'Homère, de Virgile, et ils parlaient des différents philosophes, poètes grecs et romains. Voilà, donc vous voyez un peu ce que pouvait lire à ce moment-là, au début de sa carrière, Jaurès.
Alors ensuite, il y a une autre figure. Moi, je m'attache beaucoup à comment circulent les livres et comment qui donne à lire des livres pour les gens, qui leur fait découvrir, etc. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du bibliothécaire de l'ENS qui a joué un grand rôle pour lui aussi, donc pendant ses études à Paris et qui du coup a contribué également à son éveil politique à ce moment-là.
Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que ce bibliothécaire s'appelle Lucien R, H2ER, mais lorsque Jaurès était élève à l'école normale supérieure, il ne l'avait pas. Il n'était pas bibliothécaire, mais il l'a connu quand ensuite il a été député, en particulier de 1885 à 1889. Et il allait régulièrement le voir à l'école normale supérieure. Et ça a été la première formation de Jaurès, puisque Lucien R. lui faisait lire, bien entendu, des philosophes, mais lui a fait connaître ensuite des auteurs politiques. Lui a fait connaître Hegel, Karl Marx et quelques autres. Il a ouvert chez Jaurès une sorte de conscience sociale et de conscience politique. Il a joué un énorme rôle. Et bien entendu, R, il a continué de lui faire lire, il lui conseillait des lectures, pas tellement en philosophie, puisque Jaurès était, bon, c'était son dada, donc il avait été prof de philo, mais des lecteurs contemporains de l'époque. C'est là en particulier qu'il a commencé à lire Rousseau, il a commencé à lire Chateaubriand, il a lu Hugo, il s'est intéressé, il a lu Stendhal, il a lu Flaubert. Vous voyez, je suis en train de citer sur les contemporains, je regarde mes notes, je m'excuse. Balzac, Flaubert, Georges Sand, Zola. Ah, Zola, il a eu un problème avec Zola.
Oui, alors ça, je voulais qu'on en parle. Ça, voilà. Ça m'intéresse.
Il y a un problème avec Zola parce qu'on peut considérer que Jaurès pouvait apprécier les romans de Zola, Germinal, La Terre. Mais il trouvait, à ce moment-là, Zola un peu trop politique. C'était le Jaurès républicain qui n'était pas encore socialiste. Il est devenu socialiste au moment des grèves de Carmaux, des mineurs et des verriers. Et il trouvait que chez Zola, il manquait un certain côté spirituel, de quête spirituelle, de quête initiatique. C'est pour ça que Zola, il l'a appréhendé un peu plus tard. Mais il adorait Hugo. Et bien entendu, ce qu'il aimait, lui, quand un livre lui plaisait, il aimait apprendre des passages par cœur. Et comme il récitait des passages d'Homère, des passages de Platon, il récitait des passages d'Hugo.
Oui. Hugo, qui était, il est indiqué qu'il le qualifiait, comme beaucoup d'autres évidemment, mais de maître. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans son parcours, et je propose qu'on parle deux minutes de ça, il a été aussi, il a fait des chroniques journalistiques dans La Dépêche, sous le pseudonyme, il s'appelait, et on a su qu'après que c'était lui, entre guillemets, le liseur. Alors il y a le terme un petit peu original, il ne se désignait pas comme étant le lecteur, c'était le liseur. Et je trouvais qu'il avait une présentation de son projet qui était intéressante, avec une approche de la lecture, moi, qui m'a parlé, dont je propose qu'on discute. La citation est un petit peu longue, mais c'est comme ça qu'il se présentait, donc dans La Dépêche. Et il dit « Voulez-vous, amis lecteurs, maintenant que vous n'êtes plus absorbés par la bataille électorale, que je reprenne avec vous mon modeste rôle d'informateur ? Ce n'est point ici une œuvre de critique ambitieuse. Je veux seulement tenir au courant les lecteurs de La Dépêche des principaux événements littéraires. Je voudrais me promener quelquefois avec eux, au passage Choiseul, devant les vitrines Le Maire ou sous les galeries de l'Odéon, les mettre en rapport avec la jeunesse littéraire, avec ses essais, ses ambitions, ses œuvres. Ce ne sera pas toujours le livre de la quinzaine que nous signalerons exclusivement. Il nous faudra parfois, pour comprendre telle œuvre récente, faire un léger retour en arrière. » Et je trouve cette profession de foi de son travail journalistique au service de la littérature, assez intéressante et emblématique, je trouve, de son rapport de lecteur multiple, comme on l'a dit.
Oui, alors pourquoi il est venu au journalisme ? Parce que finalement, c'était un lecteur multiple, donc, et il a commencé quand il était en particulier à l'école normale supérieure, tous les quotidiens, tous les hebdomadaires, tous les mensuels qu'il voyait traîner, il lisait. Il lisait, et c'est une construction du Jaurès journaliste qui est venu petit à petit. Donc, alors je vous ai dit, d'abord, il a commencé par écrire dans La Dépêche du Midi. Dans La Dépêche du Midi, en 1887. Alors, je regarde mes notes. Dans La Dépêche du Midi, de 1887 à 1914, il a écrit 1312 articles dans La Dépêche du Midi. Il n'écrivait pas tous les jours, quand même. Mais ça fait pas mal de choses, quand même. 1887 et 1914. Quand il a été battu à Carmaux, il est devenu directeur politique de La Petite République, un quotidien socialiste. Là, il a écrit, je n'ai pas le nombre d'articles, mais il en a écrit un certain nombre. En 1904, il crée... C'est là on se rend compte de la modification de Jaurès, de cet auteur multiple. Il dit « J'ai envie de créer un quotidien, de créer un grand quotidien. Il crée l'humanité en 1904. Alors là, par contre, dans l'Humanité, il a écrit beaucoup plus régulièrement que dans la Dépêche. J'ai pu retrouver entre 1904 et 1914, en 10 ans, dans l'Humanité, il a écrit 2650 articles. C'est pas mal. Donc vous voyez le Jaurès journaliste.
Et donc à l'affût des nouveautés entre guillemets, et avide de transmettre. Moi, j'ai l'impression qu'on parle quand même beaucoup d'un lecteur passionné et d'un lecteur qui a envie d'en parler. On retrouve là aussi peut-être l'orateur attaché à la fois aux mots, mais aussi à la transmission de tout ça.
J'en profite pour faire un peu de publicité pour un vieux copain, pour un vieil ami. Je vois que nous avons les mêmes lectures. Vous savez, quand on veut appréhender un homme politique, appréhender en particulier Jaurès, il faut toujours se méfier en bouquin. Qu'est-ce qu'on peut lire sur Jaurès ? Bien entendu, je vous conseillerais le mien. Hein. Sans problème, là, j'en ai fait deux. Celui-là est même meilleur que le premier. Donc, hein. Mais, alors, il y a pour le moment la Bible sur Jaurès. C'est un gros pavé de 660 pages fait par un historien, par deux historiens, Gilles Candard. Gilles Candard, c'est le président de la Société d'études jaurésiennes. Et ensuite, Vincent Duclerc, autre historien qui ont raconté la vie de Jaurès dans son intégralité. Je me permets de faire une nouvelle publicité, un peu de pub également, pour le Centre National et Musée Jaurès à Castres. Je suis en train de m'investir de plus en plus. Ces deux personnalités viendront l'année prochaine pour un colloque à Castres sur Jaurès, puisqu'en novembre 2024, ça sera le centenaire de l'entrée de Jaurès au Panthéon. Et je fais un peu de publicité également pour le Centre National et Musée Jaurès, parce que je vous ai dit, ce que nous sommes en train de faire là aujourd'hui, Jaurès lecteur, c'est pratiquement unique. C'est la première fois qu'il y a un colloque, un débat, une intervention, il n'y a jamais eu de conférence sur ça. Du mois de début décembre, certainement ça sera vers le 15 décembre, jusqu'au mois de septembre, au Centre National Musée Jaurès, il y aura une exposition que je suis en train de mettre en place avec Madame Arche, qui est la responsable des musées de Castres, et le personnel administratif du musée de Castres. Ça aussi, une grande nouveauté. On vous parlera de Jaurès intime. Il faut le faire quand même, ça, hein. À ce moment-là, Jaurès, les hommes politiques, ils n'aimaient pas du tout parler de leur vie privée. Mais là, on va vous présenter une exposition Jaurès intime. Je vous ferai également une conférence sur Jaurès intime, sa vie, comment il vivait. Jaurès et les femmes en particulier. On verra une autre facette du personnage de mon Jaurès. Jaurès et l'amitié, etc. Je referme la parenthèse, ça. Pour en revenir à Gilles Candard, donc, ce qu'il a écrit, c'est intéressant parce que sur Jaurès, sur les lectures de Jaurès, il a dit « Jaurès était sans doute un des parlementaires les plus lettrés de son temps. » Je vous garantis, quand on faisait le tour, certainement, à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés, il devait pas être nombreux, les députés de tous bords confondus, à lire les philosophes grecs, à lire Ovide, à lire Platon et à les réciter en latin. Donc, hein. Il fut toujours considéré comme un boulimique, comme un dévoreur de livres, assidu de la Chambre, souvent décrit avec un volume à la main ou dépassant de la poche de son veston, ne se privant guère du plaisir de la citation ou de l'évocation littéraire. Voyez cet aspect, comme disait Jérémy, de Jaurès, Jaurès lecteur, Jaurès boulimique, Jaurès dévoreur de livres, qu'il fut toute sa vie, depuis le collège jusqu'à sa mort.
Alors on va essayer de reprendre le fil. On n'a pas encore abordé sa thèse. Alors, on ne va pas faire un résumé de sa thèse, de ces deux thèses, mais simplement, elles, à leur façon, elles sont aussi des pistes de compréhension par rapport à ses lectures.
Tout à fait. Et puisque ces thèses, il a commencé à les écrire vers 1889 à 1892. J'ai fouillé un peu, j'ai retrouvé ce qu'il lisait à ce moment-là, parce que les lectures de Jaurès ont évolué, donc. Les lectures de Jaurès ont évolué depuis les lectures classiques jusqu'ensuite, quand il était à l'école normale supérieure, les lectures des grands auteurs en particulier des romantiques du 19e siècle, ensuite des lectures beaucoup plus politiques. Et qu'est-ce qu'il lisait à ce moment-là? Alors, il avait un philosophe qui le passionnait, philosophe allemand, Emmanuel Kant. Je peux vous dire que pour avoir lu, pour avoir essayé de lire Kant, il faut le faire. Il avait deux ouvrages de Kant qu'il adorait, Critique de la raison pure, Critique de la raison pratique. Et faire le distinguo, déjà, c'est pas mal. Mais lui, il adorait Kant. Ce qui veut dire qu'il a été intéressé pour faire une thèse où Kant allait intervenir. Ensuite, qu'est-ce qu'il lisait à ce moment-là? Il lisait Diderot et Montesquieu. Le siècle des Lumières, donc. Diderot et Montesquieu. Il lisait Saint Thomas d'Aquin. Vous voyez, quand on passe de Diderot à Montesquieu à Saint Thomas d'Aquin, c'est vraiment le grand écart. Dans ce même ordre d'idées, il lisait Bossuet, il lisait Lucrèce, mais il lisait Auguste Comte, un philosophe qui a révolutionné la philosophie avec le positivisme. Il lisait de tout, il lisait systématiquement tout. Alors, ces deux thèses, bon, il a voulu ensuite avoir l'agrégation. Donc, ce qui veut dire qu'il a écrit deux thèses. D'abord, une thèse qu'on appelle une thèse secondaire. Ce n'est pas celle qu'il a présentée pour le soutien à son agrégation à la Sorbonne.
Cette là, thèse, vous allez voir... boulot un peu facile, le petit ouais. truc qu'il a griffonné comme ça avant de voilà. s'attaquer au vrai...
Mais...
En latin.
Voilà, en latin, bien entendu. Alors, sa thèse, vous allez voir. Les origines du socialisme allemand chez Luther, l'initiateur du protestantisme, chez Kant, chez Fichte et chez Hegel. Thèse secondaire. Thèse principale en doctorat. Oui, je me suis trompé tout à l'heure, ce n'était pas l'agrégation, il l'avait déjà, c'était le doctorat de philosophie. Et sa thèse principale, de la réalité du monde sensible, soutenue le 5 février 1892. Alors, je ne vais pas trop vous résumer tout ça parce que c'est quand même assez complexe, mais de la réalité du monde sensible, c'est une thèse philosophique, c'est les questionnements philosophiques et métaphysiques de Jaurès qu'il aborde. Et en particulier, toute sa vie qui va évoluer sur ces thèmes-là, sa relation avec la religion, sa relation avec Dieu, etc.
Alors, à propos de sa relation avec là où les religions, on ne va pas... rentrer dans les détails, mais il y a un auteur qui a beaucoup compté. Je rattrape un bout de liste là que j'ai trouvé dans cet article sur justement son intérêt aussi aux auteurs étrangers dans son rôle de critique. Je vais en citer comme ça quelques-uns et on va rebondir sur un en particulier. Donc je cite, il rencontre également des écrivains étrangers dès leur première traduction. Ainsi, Maeterlinck, D'Annunzio, Ibsen, Tolstoï, Dostoïevski et Nietzsche. Et l'historien qui fait cet article-là, alors, je fais aussi, moi, le petit moment bibliographie, c'est dans un livre édité par La Dépêche, sur le travail de Jaurès à La Dépêche, donc on est quand même dans plutôt quelque chose, on va louer son travail, et l'auteur précise quand même que Nietzsche, c'était la première fois, paraît-il, qu'on en parlait en France. Il indique concernant ce dernier, les lecteurs de La Dépêche sont beaucoup plus favorisés que les Parisiens, dont les journaux ignorent à cette époque jusqu'au nom du philosophe allemand. Donc apparemment, ça aurait été la première fois qu'il a parlé de celui qui deviendra évidemment un immense philosophe. Mais c'est sur Tolstoï que je voulais vous lancer, mais je vois un doigt qui se lève.
Avant de parler de Tolstoï, il a un certain nombre d'auteurs qui l'ont profondément marqué en dehors des classiques. Je vais revenir sur ça parce que je voulais vous en parler tout à l'heure, mais pris dans la discussion. Il y a un auteur qui l'a énormément passionné, en particulier lorsqu'il était à l'école normale supérieure. Alors, un auteur pas marrant à lire, hein, assez difficile. Il s'appelle Saint-Simon, exactement, Louis de Rouvroy de Saint-Simon, fin 17e siècle, 18e siècle. Et donc, il l'a lu quand il était à l'école normale supérieure, en 1878 à 1891. Alors, qu'est-ce que c'était que ce Saint-Simon qui l'a passionné? Saint-Simon, c'était un philosophe, mais c'était également un économiste et un précurseur à l'économie. Dans ses mémoires, dans ses nombreux essais, il a évoqué la religion, le christianisme, et ça, Jaurès, ça l'intéressait. Il avait perdu la foi, mais il y avait tout le temps une quête spirituelle. Chez lui. Et ce Saint-Simon l'intéressait parce que c'était un penseur réformateur, un penseur utopique. Le saint-simonisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire bâtir le bonheur sur le progrès de l'industrie et de la science. Et le Jaurès, qui allait devenir républicain, qui allait devenir socialiste, progressiste, ça l'a intéressé, ça. Saint-Simon l'a vraiment intéressé et l'a marqué. Et c'est là que maintenant, j'embraye sur... Je pourrais bientôt te remplacer, tu vois. Je peux faire les deux, presque.
Moi, je peux aller m'asseoir, hein, je sais pas.
Vous voyez, l'image qu'on peut avoir de l'historien, j'essaye souvent dans mes conférences de démystifier l'historien. Donc, quand je fais des conférences pendant une heure, il n'y a rien de plus horrible qu'une personne qui est en train de lire, qui regarde ses notes, qui n'a pas le sens de l'humour. D'abord, moi, sur mes conférences, j'ai tout le temps un PowerPoint. Et puis, quelque part, une pointe d'humour avec quelques anecdotes, ça permet de...
Quelque chose de vivant.
Faire, surtout sur ça. Donc. Alors, Tolstoï, il a... Ah, Tolstoï, le Léon Tolstoï, le romancier russe. Alors, vous connaissez Tolstoï, Guerre et Paix. Je crois que c'était... il a écrit pendant 3 ans, vers les années 1969, Anna Karénine, Résurrection. C'est un magnifique ouvrage. J'aime pas trop Tolstoï, mais... De mon résurrection, je l'ai trouvé intéressant. Résurrection, je l'avais lu quand j'étais enfant d'histoire et ça me paraissait intéressant. Il était très affecté par la mort de Léon Tolstoï. Et pourquoi il a aimé Tolstoï? Parce que d'abord, il y avait une sorte de réalisme, comme chez Zola, un romancier réaliste, mais il a aimé Tolstoï parce qu'il le considérait comme un éveilleur de conscience et comme quelqu'un qui avait une quête, qui était en permanence en train de chercher quelque chose, une sorte de quête initiatique chez Tolstoï. Et là, ça l'a intéressé. Puis le côté recherche spirituelle de Tolstoï. C'est pour ça qu'il a bien aimé Tolstoï. Hein.
Oui, et cette dimension effectivement spirituelle qu'on retrouve, on tourne un petit peu autour parce que c'est pas forcément autour de ça dont on va le plus parler, mais elle est vraiment présente à travers différents auteurs. On peut même rattacher ça éventuellement dans son travail sur les origines du socialisme allemand où il a cité Luther, qu'on connaît plus ouais. comme le théoricien ou le précurseur du protestantisme qu'autre chose, mais voilà, on tourne un peu autour de tout ça.
Ce qui est intéressant sur Tolstoï, j'ai retrouvé ce qu'avait écrit un philosophe contemporain, Jean-Marie Muller, qui a écrit dans un bouquin qui s'appelle Alternative socialiste ou quelque chose comme ça. Et il est mort en 2021. Il a écrit un truc intéressant sur les relations entre Tolstoï et ils se sont jamais rencontrés. Mais pourquoi Jaurès aimait tant Tolstoï? Et il dit, Tolstoï et Jaurès, il n'est pas sûr que beaucoup d'entre nous associeraient profondément les deux noms de ces deux grands hommes, dont, au premier abord, les parcours respectifs ne semblent pas emprunter les mêmes chemins. Il y avait chez Tolstoï cette quête spirituelle et religieuse même, que Jaurès, il se posait la question, mais de façon un peu différente. Et Muller dit, ce qui est précisément remarquable, c'est que Jaurès, qui a conscience qu'il ne suit pas la même voie que celle de l'écrivain russe, a su parfaitement comprendre le sens profond de l'œuvre et de la pensée de celui qu'il appelle le grand Tolstoï. Et à tel point que quand Tolstoï est mort, c'était en novembre 1910, en janvier ou février 1911, l'année suivante, il a donné une conférence sur Tolstoï à Toulouse. Parce que Jaurès, personnage multiple, homme politique, socialiste, journaliste, professeur, historien, conférencier, c'est pas mal. Donc, voyez, donc, il a donné une conférence sur cette personne qu'il a profondément marquée. Donc,
il en reste deux dont il faudrait, je pense, qu'on parle, qui sont liés à effectivement la fin entre guillemets, la deuxième partie de sa vie, qui sont lié aussi à la découverte au mouvement pacifiste, puisque là, disons que si on suit une progression chronologique, on est au début du XXe siècle, et la question de la guerre va beaucoup occuper Jaurès, qui va également écrire dessus, etc. Juste une petite question d'ailleurs au passage, est-ce qu'il y a des écrits personnels de Jaurès? Parce qu'il a écrit, il y a l'Armée Nouvelle, il y a ce qu'il a écrit en tant que journaliste, etc. Mais est-ce qu'il a eu une tentation personnelle, autobiographique, quelque chose de ce goût-là?
Absolument. Alors Jaurès a énormément écrit et pour être sûr de ne rien oublier, je vais vous indiquer les écrits de Jaurès. Je reprends mon bouquin, la page 426.
Regardez comme c'est bien fait.
Les écrits et les discours de Jaurès. Vous allez voir que c'est impressionnant. Premier écrit, 1898, quand il est engagé sur l'affaire Dreyfus. Et il a écrit ça au moment où Zola avait écrit le célèbre J'accuse dans l'Aurore. 1898, il écrit les preuves sur l'affaire Dreyfus. 1898, il préface un livre de son ami Lucien Deslignières, L'application du système collectiviste. 1898. 1901, un nouveau Jaurès, Jaurès historien. Alors, il adorait un historien qui avait fait une histoire de la Révolution française, une sorte d'histoire romantique. C'était Michelet. Il adorait Michelet. Qu'est-ce qu'il a fait ? Michelet, il dit, Michelet a fait une histoire plus ou moins romantique de la Révolution française. En 1901, il fait histoire socialiste de la Révolution française. Il analyse la Révolution française. Donc, vous voyez, c'est son troisième bouquin. En 1900, il écrit Les deux méthodes. Qu'est-ce que c'est, Les deux méthodes ? C'est l'opposition qu'il y avait au sein du Parti socialiste entre la tendance réformiste de Jaurès, Parti socialiste SFIO, et la tendance guédiste. Il parle des deux méthodes pour aborder le socialisme. Et ensuite, ça fait l'objet à Lille d'une célèbre confrontation entre Guèze et Jaurès. Donc, nouveau bouquin en 1900. En 1901, autre livre, « Comment se réalisera le socialisme ?» 1902, « Études socialistes ». 1903, le discours à la jeunesse, suite au fameux discours qu'il avait tenu au lycée. 1904, notre but. 1905, la révolution russe. Il s'intéressait à ce qui se passait en Allemagne, mais également en Russie. 1905, l'alliance des peuples. 1907, la guerre franco-allemande de 1870 à 1871. 1910, un énorme bouquin. L'éloge du pacifisme, l'armée française, où il décrit comment, lui, conçoit la défense militaire en France, donc, et le principe de l'armée. On est en 1910, la même année, il écrit « Vers la République sociale ». En 1912, il écrit « Conflit élargi ». En 1914, au tout début, durant le premier semestre de l'année 1914, Il a fait un certain nombre de conférences et d'interventions. Son discours de Vèze sur la paix, son discours également au congrès du Parti socialiste, et tout ça, ça a été réuni. Donc vous voyez que c'était quelqu'un, et j'en ai oublié un. Je me rends compte d'un oubli que j'avais fait dans mon ouvrage. C'est pas mal. Il a écrit un livre de poésie qui s'appelle « Poème » aussi. Il était tenté partout. C'était Jaurès, mais c'est un touche-à-tout de génie. Voilà, tout simplement. Vous voyez toutes les œuvres de Jaurès. Et toutes ces œuvres de Jaurès ont été tous les textes qu'il a pu écrire en dehors de ça, ces textes de discours. Mais ce cher Gilles Candard, il les a réunis dans une série de plusieurs ouvrages sur recueil et textes de Jean Jaurès. Vous voyez le Jaurès très multiple qu'il était. Et surtout très prolixe en écriture, parce que journaliste, il écrivait en même temps de 1904 à 1914 à deux journaux de façon très régulière, à la Dépêche de Beau-Toulouse et ensuite à l'Humanité. Il continuait d'écrire des bouquins, des ouvrages.
Tout en ayant une activité politique
en plus.
Intense. On revient donc au lecteur sur cette dernière période. J'aimerais bien qu'on dise quelques mots dans l'ordre que vous souhaitez. Je vous laisse la direction de cet entretien. Oui, mais c'est l'émotion. C'est l'émotion que la fin approche. Je te laisse finir.
Moi aussi, le nom Jérémy, j'ai oublié de te le dire. Mon fils s'appelle Jérémy. Mon fils
unique s'appelle Jérémy. Ben voilà. Ah ben. C'est donc un signe. C'est donc un signe.
C'est mon fils et c'est un ami en plus. Je me permets de le dire puisque il ne m'appelle pas papa, il m'appelle Max.
C'est une belle preuve effectivement d'amitié. Moi, certains m'appellent Benjamin, ça évite la confusion avec Jérémy. Et je les vois qui rigolent dans la salle. Alors, donc, je te laisse le choix pour aborder ces deux derniers auteurs qui ont également beaucoup compté sur le tard entre guillemets. Il s'agit de Romain Rolland et d'Alain.
Oui, alors Romain Rolland, il a beaucoup compté, mais j'avoue que je ne me suis pas trop penché.
Alors parlons d'Alain.
J'ai presque envie de dire. Bon, Romain Rolland, sa relation a été complexe. Je ne me suis pas trop penché, tout comme les relations avec certains auteurs est très complexe, et en particulier avec Anatole France. Tu vois, j'arrive, tu me coinces sur un truc, mais je rebondis sur Anatole France. Donc, hein.
Allons-y, non, c'est bon. Alors,
Anatole France, il disait, Anatole France, il était un peu jaloux de Jaurès. Anatole France avait une certaine aura à ce moment-là. Il était un peu jaloux de bon Jaurès. Il disait, mais finalement, Jaurès, c'est quelqu'un de imbu de sa personne qui n'a pas trop d'amis. C'était faux. Jaurès avait un certain nombre d'amis, mais il les triait. Mais il avait une excellente relation avec Anatole France, tout comme avec Roland, tout comme avec quelques autres, et tout comme ensuite, au moment de quand Zola a sorti J'accuse, bon, il est devenu très proche de Zola. Mais vers la fin de sa vie, c'est ça qui est intéressant. Je vous ai parlé des auteurs au début de sa scolarité et vers la fin de sa vie, en 1914, il était à Bourg, hein, en 1914. Et il multipliait les réunions de 1914, les actions sur le pacifisme. En 1913, la grande manifestation, 100 000 personnes qui sont réunies auprès Saint-Gervais sur la loi des 3 ans, les discours, ils sentaient que la guerre approchait. Et en même temps de ça, ils continuaient d'écrire. Et en 1914, une révélation, il lit et il découvre le philosophe Alain. Ah, compliqué. Alain, c'est Émile Auguste Chartier, dit Alain, né en 1868, décédé en 1951. Et Alain, qui est connu, un philosophe, pour avoir écrit un certain nombre d'ouvrages qui commençaient propos sur l'éducation, propos sur la politique, etc. Et en 1910, Alain avait écrit un livre sans un propos, qui résume un peu la pensée d'Alain. Il découvre ce livre en 1914. Alors, qui était Alain et pourquoi il a été intéressé par Alain? Parce qu'Alain, on peut dire que c'était un penseur dans la plus pure tradition socratique. Alain aimait les philosophes grecs, ça tombe bien. Alain aimait Socrate, Jaurès aimait Socrate. Donc, Alain, il se rattachait au courant rationaliste, né avec Descartes. Ça tombe bien, Jaurès avait lu Descartes, il y avait un petit côté rationaliste. Donc, Alain était très intéressé par le côté pédagogique, ça tombe bien. Jaurès a été pendant très longtemps professeur de philosophie. Et ce qu'il fascine chez Alain, c'est son côté moraliste. Il était déjà fasciné par l'aspect moraliste chez Tolstoï. Il découvre ce côté moraliste chez Alain. Il se dit qu'Alain, en plus de ça, qu'il fascine, il y avait un petit côté esthète chez Alain. Et puis surtout, il se rend compte qu'Alain était un idéaliste. Mais idéaliste, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas un vilain mot, on peut l'être. Un idéaliste républicain et surtout un fervent humaniste et un authentique pacifiste. Alors, la lecture des « Sans un propos », c'est un déclic chez lui. Il a regretté d'avoir lu Alain aussi tard.
Aussi tard, parce que on l'a dit rapidement, Jaurès meurt en 1914, quelques jours avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, tué par un certain Raoul Villain, au nom un peu prédestiné. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Alors, je vais annoncer les deux questions finales en même temps. Quelques mots, ensuite, sur la postérité, y compris un petit peu éventuellement littéraire de Jaurès, l'influence qu'il a pu avoir sur les générations suivantes. Ça peut être la panthéonisation, Blum, etc. Quelques mots là-dessus. Mais surtout, une autre question qui m'est venue là, il entretient quel rapport avec les langues régionales? C'est pas tant les langues régionales que l'Occitan ou le patois d'ici. Je crois qu'il le parlait. Je crois qu'il suivait un petit peu les auteurs dits régionaux et régionalistes avec un regard un peu distant quand même. Lui, le fervent républicain quand même. Est-ce qu'on peut dire 2-3 mots là-dessus?
Oui, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que d'abord, il avait un lien très particulier avec un auteur. Tu as parlé du fameux 31 juillet 1914. Le matin même, Jaurès, j'essayais de retracer toute la journée de Jaurès, ce fameux 31 juillet 1914. Il se réveille à 7h30, il jette un coup d'œil par la fenêtre, il voit plein de gens affairés qui se précipitent pour acheter l'Humanité, pour acheter tous les journaux. La guerre couve. À 9h, un de ses meilleurs amis, le philosophe et sociologue Lucien Lévy-Brulle, grand auteur, l'appelle au téléphone. Demi-heure après, David Brühl est reçu par Jaurès. Vous voyez, un lien très particulier qu'il avait par rapport à ça. Et donc, il a accompagné, Lévi Brühl a accompagné Jaurès durant pratiquement toute sa vie. Alors ensuite, le côté par rapport à la langue occitane. Bah, Jaurès s'était mis très tôt à l'occitan. Pourquoi ? Parce que quand il était à Castres, ils ont d'abord habité à la rue Réclusanne, et puis ensuite son père, Jules Jaurès, avait acheté une petite propriété à la Fédiale. Pour les Castrés, c'est du côté de la Chartreuse, sur la route de Saïs. Et là-bas, Jaurès s'est intéressé. Il entendait parler occitan, patois autour de lui, et il s'est intéressé systématiquement et toujours au patois, à l'occitan. Et chaque fois qu'il allait, que ce soit durant sa campagne électorale en 1885, pour la première fois quand il a été élu député, ce qui avait d'intéressant, c'est que lorsqu'il allait tenir une réunion, il s'exprimait parfois en occitan. À la fin de la réunion, il allait voir les personnes présentes, il parlait patois avec eux. Tout comme ensuite, il a continué de faire ça quand il a été élu dans la deuxième circonscription et sur Carmaux, pas forcément quand il était en réunion publique sur Carmaux en campagne, mais quand il allait dans le Ségala-Tarnay, puisque sa circonscription, c'était une circonscription ouvrière, minière et verrière Carmaux, mais il y avait ensuite les quatre cantons ruraux du Ségala-Tarnay, le canton de Monestier, le canton de Pampelonne, le canton de Valence-d'Albigeois et le canton de Val-d'Ariès. Et là, systématiquement, il s'exprimait systématiquement en occitan. Quand il était présent, en particulier, il adorait aller sur les foires. Il adorait aller sur les foires, aller voir les maquignons, et forcément, on s'exprime en occitan avec eux. Donc, il maîtrisait très bien l'occitan. Il n'a, par contre, jamais écrit en occitan. Est-ce qu'il aurait été tenté à un moment donné ? On n'en sait rien. Mais il a tellement marqué sa circonscription et le Tarn sur son approche de l'occitan, c'est qu'ensuite, quand il a été assassiné après la Seconde Guerre mondiale, Albert Thomas a été élu député, Albert Thomas s'est retiré, et dans la circonscription de Jaurès, ils ont parachuté un grand ponte du Parti socialiste qui était député en Seine-Saint-Denis, mais qui risquait d'être battu. Il s'appelait Joseph-Paul Boncourt. Alors, c'était un avocat, quelqu'un de très bien sapé, tout le temps cravate, costume. C'est un beau gosse avec des chemises à jabot, tout ça. Imaginez-vous ce bonhomme. Quand il allait, il essayait de faire du Jaurès sur les foires en rencontrant les maquignons et les marchands de vaches. Et un jour, il a dit à un brave éleveur, il a dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que, pour que je passe mieux, que j'apprenne le patois ? Il y a un paysan qui lui tape sur l'épaule, avec l'accent du sud, il lui dit, à ça, ce n'est pas possible. Vous voyez, à Paul Boncourt qui cherchait à faire du Jaurès.
C'est pas possible. C'est une belle anecdote, puis qui dit beaucoup sur la marque qu'il avait imprimée et comment lui, pour le coup, c'était pas ni une posture, ni quelque chose qu'il avait appris, mais un milieu duquel il venait. Je reviens à la charge avec cette histoire. Quelques mots sur la postérité. Alors là, non pas forcément littéraire, mais la postérité de Jaurès, puisqu'il y a quand même l'Union sacrée lors de la guerre où ses idées pacifistes, loin s'en faut, n'ont pas triomphé, puis quelques étapes marquantes de la gauche au cours desquelles Jaurès a compté, sa panthéonisation, etc.
Jaurès était très proche de certains hommes politiques. Je vous ai parlé de Vincent Auriol, mais Vincent Auriol, il a eu une carrière politique beaucoup plus tard, Vincent Auriol. Mais il était très proche de Léon Blum. Léon Blum, c'était un jeune homme donc, qui a connu Jaurès au début des années 1900. Et Jaurès, quand il était à Paris, il recevait régulièrement Léon Blum. Et Léon Blum a été profondément marqué par Jaurès. Il a fait d'ailleurs un petit fascicule, une éloge de Jean Jaurès. Et on peut considérer qu'en 1920, ce fameux congrès de Tours, où il y a eu la scission au sein du Parti socialiste SFIO, avec Hachin, il a créé le Parti communiste, et Blum a dit « Je vais rester à la vieille maison ». Il avait été profondément marqué par le côté socialiste, humaniste et réformateur de Jaurès. Donc, je méfie un peu, je vais dire ça entre guillemets, mais on peut considérer que Blum a été le premier héritier de Jaurès, le premier héritier authentique de Jaurès. Et pas mal d'hommes politiques qui se sont succédés à gauche ont fait référence à Jaurès, et en particulier, j'en reviens encore, je vais faire encore un peu de publicité nationale du musée Jaurès de Castres. Ce musée avait été créé dans les années 50 par le maire radical socialiste de Castres, Lucien Coudet, mais a été modifié en 1981-82. Pourquoi ? Parce que François Mitterrand s'était intéressé à Jaurès. Et l'inauguration du Centre national Musée Jaurès à Castres, qui avait été profondément rénové par le maire d'alors, Jean-Pierre Gabarou, qui était maire et député socialiste, Mitterrand est venu l'inaugurer. Alors, dans mon bouquin, je vais montrer à quel point, je ne vais pas le dire là parce que ça serait trop longtemps, mais j'ai un petit passage où je cite des phrases qu'a prononcées Jaurès et des phrases qu'a prononcées Mitterrand. Et on peut se rendre compte à quel point Mitterrand a été influencé par Jaurès, parce que je dis sous forme d'anecdote, qui aurait pu dire cette phrase ? Jaurès ou Mitterrand, ou bien les deux ?
Très bien.
Voilà la postérité de Jaurès parmi les hommes politiques qu'il a influencé, citons Blum, citons Jaurès, parce qu'il y a tellement d'hommes politiques qui se sont réclamés de Jaurès, y compris à droite, puisqu'il y a eu un certain nombre d'auteurs. Il y a en particulier un auteur, un castré qui était dans les années 80, je ne prononcerai pas son nom, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes, qui était au Front National à l'époque, qui était proche de Jean-Marie Le Pen, qui a fait un petit fascicule sur Bon Jaurès. Il y a le député de Lavaur qui a fait un bouquin, l'ex-député de Lavaur qui a fait un bouquin sur Jaurès. Comprendre qu'elle laissait sur Jaurès. Jaurès n'appartient à personne, mais bon, attention à ceux qui se réclament de Jaurès.
Quand même pas à tout le monde non plus. Merci beaucoup, Max. On a une petite pastille qui va suivre. En tout cas, merci beaucoup pour cette super présentation. J'avais un petit moment où je souhaitais parler des deux livres sur lesquels je me suis appuyé pour qu'on prépare ensemble cet entretien, mais tu les as déjà cités. Je les représente quand même rapidement. Donc, c'est le livre de Gilles Kandar et Vincent Duclerc, qui est vraiment la biographie qui fait autorité, on va dire. Et le même Gilles Kandar, d'ailleurs, qui préface un autre excellent livre. Gilles Kandar qui préface le livre Jean Jaurès du Tarn au Panthéon par Max Assier, que je vous recommande également. Et enfin, pour un petit plaisir un petit peu personnel, parce que la lecture c'est aussi ça, des histoires personnelles, je vais citer aussi ce livre qui a été édité par La Dépêche du Midi, Les Grandes Unes de La Dépêche par Jaurès, qui a été édité il y a une grosse quinzaine d'années, et j'ai été beaucoup lecteur par tradition familiale, lecteur jeune de La Dépêche, qui a sûrement été un des premiers journaux que j'ai lus, et je suis content aujourd'hui d'avoir pu entendre aussi bien parler de Jaurès, et de lier ça à l'histoire de Jaurès en tant que journaliste dans ce journal. Merci beaucoup, Max.
Mais c'est moi qui te remercie, c'est moi qui vous remercie. Alors, je vais refaire un petit parallèle avec ce que j'ai dit au début. J'espère vous avoir convaincu que les historiens ne sont pas des personnes ennuyeuses. Ce n'est pas des vieux monsieur avec une barbe qui sont là en train de regarder le nôtre, qui n'ont pas d'humour, qui ne sourient jamais. C'est tout le contraire.
Non, c'est bon. Je crois que le message est passé. Merci beaucoup. Et du coup, à mon émotion, j'ai oublié le quatrième livre dont je voulais parler, qui était pourtant, il me semble, une transition parfaite. Le quatrième livre, c'est un livre qui s'appelle « En l'absence de Monsieur J », qui a été écrit par un certain Pierre Daréville, que mes invités à droite qui viennent de prendre place connaissent peut-être, puisque c'est le député du côté de la circonscription de Martigues. Mes collègues qui arrivent là viennent de l'autre côté de l'étang de Berre. Pierre Daréville qui a écrit ce livre, qui était l'histoire du procès de Raoul Villain, donc le meurtrier de Jean Jaurès, que j'avais lu il y a longtemps. J'avais fait une rencontre avec lui, mais ça me plaisait de le citer maintenant. Et du coup, j'ai proposé donc à deux camarades de La Voix des Bulles qui interviennent tout à l'heure à 19h, il me semble. Je leur ai proposé une petite carte blanche pour finir cet épisode, en restant toujours dans cette idée de rebond et de circulation des livres. Je leur ai dit, bon, qu'est-ce que vous avez à me proposer sur Jaurès ?
ils n'avaient pas forcément grand-chose ou pas grand-chose d'intéressant. J'allais dire, alors, élargissez le sujet. Qu'est-ce que vous avez sur la gauche, la presse, l'histoire, quelque chose et finalement, ils vont nous proposer 2-3 livres que leur a inspiré le sujet, 2-3 bandes dessinées. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup.
Alors, merci à toi. Merci de ton invitation. Merci, Max, de cette érudition. Et alors c'est vrai que c'est un peu une gageure quand même, hein, parce que Jaurès en BD, c'est pas évident. Et la BD en France, en règle générale, au début de la Troisième République, c'est pas super évident non plus. Il y en a, hein, on va citer La Semaine de Suzette avec Bécassine, mais quand même, on va essayer d'aller un peu au-delà de Bécassine quand même. On va essayer d'élargir un peu
Merci.
Le sujet. Mais on peut pas ne pas la citer non plus. Juste Jaurès en BD, il quand même citait l'album de Glénat qui est sorti en 2014-2015 qui s'appelle Jaurès et qui est sur sa vie, son œuvre. Alors en 48 planches, c'est quand même un challenge, essentiellement remis dans un contexte de ses discours et avec des extraits de ses discours. C'est ce qui est surtout intéressant, c'est le dossier documentaire à la fin. C'est dans la collection ils ont fait l'histoire, donc c'est toute une série. Maintenant, il doit y en avoir une vingtaine d'albums. Qui sont de qualité inégale, comme souvent dans ce type de série. Celui de Jaurès est honnête, on va dire, il est correct. Mais le dossier documentaire à la fin est pas mal. En 8 pages, il aborde quelques éléments, quelques notions intéressantes pour des gens qui n'ont pas envie de se farcir un bouquin de 850 pages. Voilà, ce petit livre, je ne sais pas si hop, on peut le montrer aux caméras pour... pour le public aussi, qui s'appelle À bâbord toutes, histoire de la gauche en bande dessinée, par Jean-Yves Le Naour et Marco, aux éditions Duno, qui est sorti en 2020, et qui... Alors, c'est un challenge aussi, en 120 pages, de faire une histoire de la gauche en bande dessinée compliquée, avec Jaurès qui tient une place importante, puisque quand même il est à la jonction... entre les idées du 19e siècle qui vont construire le socialisme tel qu'on le connaît aujourd'hui et l'arrivée du socialisme moderne aujourd'hui. Donc il est vraiment à cette jonction-là. Jaurès, c'est 6 pages dans cet album, ce qui est pas mal du tout. Avec une vulgarisation certaine et évidente qui va faire hérisser le poil de tous les historiens dignes de ce nom, parce que vulgarisation signifie coupe sombre dans pas mal de choses. Mais je trouve que c'est quand même très intéressant. Faites attention, c'est très dense. Vous ne pouvez pas le lire en une fois. Il faut prendre le temps de digérer un petit peu. Il y a 25 infos par page. Donc, ce n'est pas le genre de choses qu'on lit le soir juste avant de se coucher pour se détendre. Mais voilà, c'est quand même une synthèse qui est très intéressante et une belle vulgarisation. Après, le challenge de Jérémy nous a aussi obligés à élargir un peu le sujet. Donc, finalement, la bande dessinée qui parle de cette période-là, il n'y en a pas non plus tant que ça. Heureusement, on a la Première Guerre mondiale qui nous sauve.
Et qui nous permet un petit peu de rebondir, parce que c'est vrai que c'était un petit challenge ardu, on va dire, que tu nous as posé, Jérémy. Et moi, je voulais souhaiter vous parler, en fait, du Chant du Cygne. Donc, c'est une BD qui est parue chez Le Lombard entre 2014 et 2018. Ils ont ressorti une intégrale fin 2018, qui est plus facilement trouvable que les deux premiers tomes, clairement. On est en avril 2017, on va suivre dans le département de l'Aisne, donc le carnage du Chemin des Dames commence, et on va suivre, en fait, une bande de poilus, qui commencent un petit peu à en avoir ras-le-bol au fond de leur tranchée. Ils ont faim, ils ont froid, et ils ont ras-le-bol d'être de la chair à canon avec le général Nivelle qui les envoie, il le surnomme le boucher, non sans raison, je pense. Et un jour, en fait, on va leur remettre plusieurs feuilles de papier. Ces feuilles de papier, en fait, sont des feuilles qui ont été signées par des poilus. Et le but de la manœuvre ici, c'est d'amener cette feuille, enfin cette pétition, à la Chambre des députés pour que les députés, les politiciens soient au courant de ce qui se passe réellement sur le champ de bataille et que, justement, la politique militaire change pour essayer de préserver les vies humaines. Le livre est fait par Xavier Dorizon et... excusez-moi, hop, Hervé Emmanuel. Et au dessin, donc, c'est Cédric Babouche. Cédric Babouche donc va avoir un dessin avec des très très belles aquarelles où on va avoir un mélange de de très beaux contrastes avec du gris, du rouge, des pleines pages qui sont absolument splendides. Et justement, donc le dessin va vraiment autant raconter l'histoire que ce qu'il va nous la montrer. Montrer la dureté de la guerre avec des explosions, avec des sous-bois, des moments de sérénité, des moments de calme. Et justement, le champ du cygne n'est pas... grâce à ces scénarios, justement, une histoire qui va nous parler des héros qui vont mourir pour la patrie ou pour être un livre sur la Grande Guerre. Mais c'est vraiment un livre sur les hommes qui vont faire des choix en fonction de leurs valeurs, qui vont peut-être prendre des chemins qui ne sont pas le chemin du système, ils vont aller à contre-courant. Et justement, je trouve que voilà, ce contre-courant, c'est peut-être un petit peu justement le chemin de Jaurès au début avant la guerre, finalement.
Le pacifisme jaurésien. On pouvait citer aussi rapidement, puisque ça parle de l'année 1914, et la photo midi, qui est l'adaptation du livre de Jean-Yves Le Naour, un historien spécialiste de la Première Guerre mondiale, qu'il a adapté lui-même, il a adapté son roman en bande dessinée, publié chez Bambou en 2014, avec Adan au dessin. Qui parle finalement du début de la guerre et de la dureté du début de la guerre, puisqu'on a oublié qu'en fait les journées les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale, ça a été la débâcle, en fait la première débâcle, au moment où les Allemands ont fait la première offensive, où les Français ont essayé de résister, et ce qui va aboutir à la première bataille de la Marne le 6 septembre 1914. Mais avant ça, on s'en est quand même pris plein la tête, avec 20 à 25 000 morts par jour. Donc c'est vrai que souvent on parle après de Verdun, on parle du chemin des dames, et avec raison d'ailleurs, hein. Mais on a un peu oublié ces premières journées, cette première offensive allemande qui a fait énormément de morts. Et on a oublié aussi tous les fusillés du début, puisque à ce moment-là, on est dans une position très dure de la part des militaires, qui sont « on ne doit pas reculer, il faut attaquer avec la force au jarret », c'est-à-dire il faut attaquer avec la baïonnette au fusil. On est encore dans une conception très 19e siècle de la guerre. La mitrailleuse, finalement, c'est un gadget, donc c'est pas très grave, on y va frontalement. Donc c'est pour ça qu'on perd autant d'hommes. Et on va énormément fusiller. On va fusiller plus qu'en 1917, en 1914. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu quelque chose qu'on a oublié. Jean-Yves Le Naour le revalorise un petit peu avec cette histoire de soldats du 15e corps d'armée. Le 15e corps d'armée, c'est les Marseillais. Donc nous, on vient de la région de Marseille, ça nous touche un peu. Mais on est aussi dans le sud ici, et le sud a mauvaise presse auprès des Parisiens. C'est des tirs au flanc, c'est des menteurs, c'est des grandes gueules, mais c'est pas des courageux, les gens du sud. Donc finalement, on va les arrêter, on va faire des fusillés pour l'exemple. Donc il y a deux pauvres types qui vont être fusillés pour l'exemple en octobre 1914. Donc on est au tout début de la guerre, on est avant les tranchées, et finalement on est dans cette immédiateté du début de la guerre, celle que justement Jaurès ne voulait absolument pas, et voulait absolument éviter cette fleur au fusil, en disant on va y aller, on va bouter l'Allemand en 3 mois, c'est terminé, et on sera à la maison pour les vendanges, et où en fait on va assez vite se rendre compte que ça va pas être le cas. Et Jaurès le savait, il le sentait, ça, que ça allait pas être le cas, mais il l'aura jamais vu.
Merci beaucoup pour ce défi brillamment relevé. Je vous ai fait phosphorer sur ces derniers jours, mais merci beaucoup pour ces 3 belles présentations. Avant d'envoyer le générique, je voudrais dire un tout petit mot, parce que moi, Castres, quand on dit à quoi ça fait penser, il y avait Jaurès, mais dans ma jeunesse, j'ai visité Castres, et la guide nous a expliqué que Jaurès se tenait souvent, paraît-il, les mains croisées dans le dos et qu'il marchait comme ça. Voilà, c'est un détail, mais il se trouve que mon père marchait comme ça aussi, enfin marche encore comme ça aussi. Donc il avait hérité du surnom de Jaurès pendant ses vacances il y a fort longtemps. Et comme en ce moment, il traverse une période un peu compliquée, c'était l'occasion de penser un petit peu à lui. Voilà, c'était le premier épisode hors série de la saison 2 de Constellation de Papier. J'envoie le générique, si ça part bien. Et je termine avec la petite éphéméride choisie en lien, et la musique ne part pas. Je suis désolé, tant pis. Et l'éphéméride, ce sera qu'il y a 46 ans, le 24 septembre 1960. Et là, j'ai une photo de Jaurès qui marche effectivement les mains dans le dos, donc c'est bon.
À Toulouse.
À Toulouse, sur les bords de la Garonne.
C'est sur les bords de la Garonne, c'est la photo de couverture de ma page Facebook.
Et voilà. Et ça m'a permis de trouver la musique pendant ce temps. Non, qui ne marche pas. Donc tant pis, on y va comme ça. Voilà. Le 24 septembre 1977, il y a donc 46 ans, Jacques Brel enregistrait la poignante chanson « Jaurès » et sa question déchirante restait en suspens. Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Merci beaucoup.